Avec notre invité ce matin, Pascal Boyer, député La République En Marche dans les Hautes-Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Pascal Boyer, comment vous sentez-vous dans votre rôle de parlementaire? Je vous pose cette question en écho aux derniers événements survenus dans les Hautes-Alpes, notamment cette campagne d'affichage sauvage à Gap qui vous reprochait certains de vos votes, notamment le CETA jugé climaticide ou votre vote contre l'interdiction du glyphosate. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous parvenez à trouver des arguments pour vous dire encore député de l'environnement quand vous avez eu ces votes?
Pour ma part, j'ai voté en mon âme et conscience au sujet du glyphosate, bon, on ne va pas refaire le film, mais de toute manière, nous sommes quand même le premier gouvernement à avoir pris le problème à bras le corps et c'est nous qui avons quand même lancé en Europe le fait de repousser le vote du glyphosate.
Mais on peut dire à petit bras le corps, c'est quand même une version petit bras de l'interdiction.
Ça a au moins le mérite d'avoir été amorcé. Autrement, nous n'aurions pas pu, enfin, les autres pays européens ne repoussaient pas la date. Au niveau du CETA, c'est pareil. Nous avons voté le CETA, enfin, j'ai voté le CETA, et en deuxième lecture, je le revoterai. Je l'annonce tout de suite, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, parce que ce sont des accords qui doivent être faits avec un pays comme le Canada. Le Canada, on ne peut pas, dire que ça soit le Brésil, soit les États-Unis. Si on ne fait pas d'accords commerciaux avec des pays tels que le Canada, je ne pense qu'on ne pourra jamais faire d'accords commerciaux et ce n'est pas forcément la bonne solution.
Mais quels seront les garde-fous pour défendre aussi notre agriculture française? C'est aussi là l'inquiétude.
Mais notre agriculture française n'est pas en péril avec le CETA. Bien au contraire, notre agriculture française, le CETA permet justement à l'agriculture française de pouvoir continuer à garder toutes ses exploitations. Quand on voit la balance commerciale qui est extrêmement positive justement au niveau de la viande bovine par rapport au Canada, on peut s'imaginer que si nous n'avions pas eu toute cette production qui serait partie vers le marché canadien, comment auraient pu peut-être tenir les exploitations françaises?
Et tout ce qui est importation aussi, parce que ça va dans les deux sens.
Le problème du CETA porte notamment et principalement sur l'importation et l'exportation de la viande bovine. Quand on sait qu'il y a une trentaine de fermes canadiennes qui sont aux normes européennes sur plus de 70 000 ou 72 000 fermes au Canada, on peut imaginer l'importation des viandes bovines en Europe et notamment en France. Donc on est très très loin d'avoir un marché inondé de viande bovine canadienne. Un des garde-fous, c'est une veille avec une commission autonome qui permettra de vérifier qu'il n'y ait pas une augmentation exponentielle de fermes qui transforment leur mode de production aux normes européennes.
Donc vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas de disparition d'exploitants bovins en France?
Je pense qu'on en est extrêmement loin. Et bien au contraire, le fait d'avoir des contrats, enfin des marchés avec les autres pays, permet justement de maintenir notre agriculture et permet de maintenir le nombre d'exploitations.
Vis-à-vis de la profession agricole, Pascal Boyer, le dialogue est rompu pour les jeunes agriculteurs et la FDSEA dans les Hautes-Alpes qui n'ont pas compris au départ votre dépôt de plainte après que deux brebis aient été déposées devant votre permanence parlementaire. Les accusations sont lourdes dans leur communiqué de presse. Ils pointent une incompétence, je les cite, et votre manque de considération pour la profession. Comment vous allez renouer le dialogue?
Pour ma part, moi, le dialogue n'est pas rompu. S'ils veulent venir me voir, il n'y a aucun souci, donc c'est eux qui annoncent que le dialogue est rompu, c'est eux qui ont rompu le dialogue. Deuxièmement, quand on me dit que j'ai déposé plainte et qu'il y a incompréhension, moi il y a une incompréhension sur le fait qu'on m'ait déposé deux brebis devant ma permanence. Parce que j'estime quand même que je suis assez proche d'eux et que, il faut le dire, quand il y a des fois, quand ils ont des fois quelques soucis, je peux vous assurer que, voilà, c'est pas pour me vanter, mais je m'en suis largement occupée.
Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est un engagement, et notamment que vous soyez pour les tirs de défense en zone cœur de parc, ou que vous soyez pour le fait de rehausser le plafond de prélèvement du loup.
Non, mais moi, ce qu'ils veulent, et ce que je leur ai dit en groupe national loup, que le tir de défense dans les cœurs de parc serait extrêmement dur à obtenir, voire quasiment impossible.
Mais vous y êtes favorable?
Mais, Mais non, je m'y suis pas favorable. J'ai jamais donné position. J'ai simplement dit que ça serait extrêmement dur à obtenir et que voire quasiment impossible. Mmh. Moi, vous savez, j'étais il y a une quinzaine de jours à Matignon pour justement essayer de négocier ça, pour essayer de négocier au moins les tirs d'effarouchement. C'est ce que j'ai proposé au groupe national loup. Donc c'est pas moi qui décide dans tout ça. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué à faire changer parce que ça veut dire qu'on remet en question la création des cœurs de parc, puisque au niveau des cœurs de parc, on est dans une préservation totale de la biodiversité. Donc ça se change pas comme ça. C'est pas parce qu'un jour quelqu'un lance à la volée, on n'a qu'à tirer en tir de défense dans les cœurs de parc, que ça va se faire. C'est extrêmement compliqué à changer cette réglementation. Quand les chartes ont été signées, il n'y avait pas de loups dans les cœurs de parc. Actuellement, nous en avons autant que partout ailleurs sur le territoire de l'arc alpin. Donc effectivement, il faut en prendre en compte l'évolution de ce qui se passe dans les cœurs de parc. Mais la réglementation ne se change pas comme ça du jour au lendemain, surtout sur des zones aussi préservées au niveau de la faune et de la flore.
Vous avez été nommé, enfin le bureau de la commission des affaires économiques de l'Assemblée a créé un groupe de travail sur la mission des chiens de troupeau. Vous en êtes la rapporteure. Quel va être concrètement l'objectif ?
Voilà, quand on me dit que je les abandonne, vous savez, obtenir ça, c'est pas évident. Hein. Depuis le début de la mandature, je suis sur la problématique de la présence du loup sur nos territoires. J'ai créé un groupe d'études élevage pastoral. C'est l'Assemblée qui l'a créé. Enfin, nous avons fait créer cette mission. Alors, la problématique des chiens de troupeau, donc, englobe tous les types de chiens et notamment la problématique des patous que nous rencontrons tous les étés entre les touristes, les éleveurs et puis les élus locaux qui sont bien évidemment dans la boucle. La mission, c'est de travailler notamment sur cette problématique et d'essayer de trouver des solutions, notamment sur le statut du chien de protection, puisque actuellement, et nous l'avons vu il y a une quinzaine de jours, le chien de protection appartient à l'éleveur et c'est l'éleveur qui en a la responsabilité. Or, pour avoir des indemnisations, l'éleveur est dans l'obligation de se protéger et les chiens de protection en font partie. Il faut essayer de trouver un moyen de réglementer tout ça de manière à protéger les éleveurs.
Pascal Boyer, tout autre sujet, la ligne entre Grenoble et Gap, un sujet tout aussi brûlant. Hein. Alors que l'on pensait la situation sauvée avec un engagement financier pour faire notamment les travaux d'urgence, un engagement financier des régions Auvergne-Rhône-Alpes, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Grenoble-Alpes-Métropole également, la situation stagne toujours. Alors qui roule qui dans la farine? C'est un peu la question que se pose l'étoile ferroviaire de Vennes. Est-ce que c'est SNCF Réseau qui ne change pas son plan de fermeture de la ligne entre Grenoble et Gap et qui remplacera le train de nuit Paris-Briançon par des quarts de nuit? Ou est-ce que c'est l'État qui se laisse avoir durant les comités de pilotage?
Bah, écoutez, alors là, j'aimerais bien avoir la réponse, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Hein, parce que là, on tourne en rond depuis des mois, voire des années là-dessus. Effectivement, la SNCF promet ce fameux rapport pour savoir si éventuellement on pourrait faire rouler le train de nuit sur la ligne Gap-Grenoble. J'ai rencontré Jean-Baptiste Djebari hier ou avant-hier à l'Assemblée. Donc il m'a dit qu'il poussait la SNCF pour que ce fameux rapport soit sorti, puisqu'il devait déjà être sorti au comité de pilotage du 26 septembre. Et il m'a dit que dès que la SNCF lui rendait ce rapport, bien évidemment, il le communiquerait.
On rappelle que Jean-Baptiste Djebari est le secrétaire d'État chargé des transports.
Voilà. Donc, on en est là actuellement. Effectivement, on ne peut pas dire qu'on va pouvoir faire rouler un train de nuit tant qu'on ne sait pas si ce train de nuit peut rouler sur les rails. Après, sur les engagements financiers, effectivement, là aussi, on tourne en rond, parce que chacun, on a l'impression que chacun guette l'autre, et ça aussi depuis des années, c'est-à-dire qu'on est sur une prise de position, c'est chacun s'engagera si l'autre s'engage. Donc, au dernier comité de pilotage du 26 septembre, bon, il a effectivement été, il n'en est pas sorti grand chose, et c'est bien ça le problème, parce que moi j'espérais que, en fin de compte, tout le monde allait se mettre d'accord. Les travaux donc se montent à 18 millions d'euros pour pouvoir maintenir la ligne et pour pouvoir faire passer le train de nuit.
Sur la ligne totale,
ce sont les travaux provisoires. Ce seraient des travaux provisoires.
Ce sont ces fameux travaux vers Monnetier de Clermont.
Voilà, sur la ligne Gap-Grenoble, pour pouvoir faire tourner le train de nuit sur cette ligne, puisqu'il va y avoir un arrêt de plusieurs mois à cause des travaux sur la ligne Gap-Valence. Alors, effectivement, c'est 18 millions d'euros, risque de ne pas, risque de d'être effacé par les travaux qui devront être faits pour rendre pérenne la ligne. C'est-à-dire que normalement il y a 100 millions d'euros qui sont le coût. Tu pourras couper là,
je comprends,
compliqué à expliquer en plus. Il y a 100 millions d'euros qui doivent les travaux sur la ligne de Gap-Grenoble sont estimés à 100 millions d'euros si l'on veut pérenniser la ligne. Les travaux pour simplement faire passer le train de nuit pendant quelques mois sont les travaux d'urgence sont de 18 millions d'euros. Ces travaux d'urgence ces 18 millions d'euros risquent de... c'est pas parce qu'on fera les travaux d'urgence que on aura...
C'est pas parce qu'on aura mis sur la table ces 18 millions d'euros et qu'on aura fait ces travaux d'urgence que la ligne entre Grenoble et Gap sera pérennisée ?
Tout à fait. Enfin non, elle ne sera pas pérennisée, mais ça veut dire que ces travaux d'urgence, d'après ce qui a été annoncé par la SNCF au comité de pilotage du 26 septembre, c'est que même si nous faisons ces 18 millions de travaux d'urgence, de toute manière, l'addition pour rendre pérenne la ligne sera toujours de 100 millions d'euros. Ça veut dire que ces 18 millions d'euros servent simplement à maintenir la ligne pour faire passer le train de nuit. Mais de toute manière, ces travaux, entre guillemets, ne serviront à rien pour rendre pérenne la ligne, puisqu'il faudra à nouveau tout redémolir et tout casser pour faire les travaux définitifs.
Donc il faut aujourd'hui convaincre en fait toutes les parties de mettre sur la table non pas 100 millions d'euros, mais 118 millions d'euros, en sachant que ces 18 millions d'euros seront faits de manière extrêmement temporaire.
Tout à fait, c'est ce qui en est sorti. Alors effectivement, on peut se dire que 18 millions d'euros, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même énorme. Et donc, c'est arrêté.
Tout le monde fait un pas en arrière aujourd'hui.
Tout le monde fait un pas en arrière. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la SNCF puisse nous dire si techniquement, si on met déjà 18 millions d'euros, ces travaux de 18 millions d'euros pourront servir à la régénérescence définitive de la ligne. Et ça, ce ne sera que le rapport qui nous sera rendu par la SNCF qui pourra nous le dire.
Dernière question, Pascal Boyer. Vous avez été interpellé par Jean-Claude Hérault le week-end dernier, le président de l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire, sur les allocations chômage. Avec des nouvelles mesures qui seront mises en place au 1er novembre prochain, certains saisonniers, selon lui, ne seront plus du tout indemnisés.
Ah non, c'est pas ça du tout. Là justement, j'ai demandé. Alors je me suis un petit peu renseignée parce que c'est vrai que moi je pensais que le problème était réglé et que nos saisonniers étaient préservés. Voilà. Bon, je me suis renseignée auprès du cabinet de la ministre cette semaine puisque j'avais été interpellée. Je n'ai pas encore totalement la réponse. En relisant un peu les notes que nous avions eues. Ne seront pas du tout indemnisés. C'est-à-dire que il faudra avoir travaillé 6 mois pour avoir été pour pouvoir obtenir une indemnisation. 6 mois dans les 24 derniers mois.
Pour obtenir une indemnisation, des droits à l'indemnisation.
Des droits à l'indemnisation. Une fois que vous avez obtenu, vous avez travaillé ces 6 mois, après vous avez à nouveau les droits de chômage qui se... Alors, ça se cumulera moins qu'avant, mais on ne peut pas dire qu'il y aura aucun saisonnier qui ne sera pas indemnisé. Ça n'est pas convenable. C'est pas le but de la loi non plus.
Pour lui, il y aura quand même des trous dans la raquette, c'est-à-dire que certains saisonniers ne pourront pas travailler 6 mois.
Oui.
Et donc, ils n'auront pas le droit à des indemnisations. Donc, pour les plus de 25 ans, on pourra bénéficier du RSA, mais pour les moins de 25, il n'y aura pas de RSA. C'est l'inquiétude aujourd'hui.
Alors le but de cette assurance chômage aussi, enfin de cette réforme, pardon, de l'assurance chômage, c'est effectivement qu'il n'y ait plus non plus énormément de trous dans la raquette. Là, ça c'est clair. ça a été annoncé comme ça. Après, moi, ce que j'attends d'avoir les notes du ministère du Travail pour effectivement aller discuter avec le ministère du Travail, avec le cabinet ou voir la ministre, pour lui expliquer que effectivement dans les Hautes-Alpes, trouver une activité saisonnière de 6 mois, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des départements alpins où c'est beaucoup plus simple de pouvoir avoir une activité, enfin deux activités qui se cumulent sur 6 mois. Chez nous, effectivement, notamment sur la saison du printemps, parce que sur la saison d'automne, on peut aussi faire la saison d'été et la saison du ramassage des pommes et des poires. Donc ça peut éventuellement se cumuler. Mais sur la saison printanière, l'intersaison, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, moi j'attends d'avoir exactement les informations pour pouvoir aller discuter avec le cabinet de la ministre ou la ministre et pour lui expliquer que effectivement nous avons une particularité dans les Hautes-Alpes, c'est que l'activité intersaison n'est pas forcément l'activité intersaison, de Savoie ou de Haute-Savoie.
Vous attendez des éclaircissements en tout cas de la part du gouvernement. Merci beaucoup Pascal Boyer, député La République En Marche des Hautes-Alpes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci beaucoup. Au revoir.